Vous écoutez un podcast RTL Originals.
Ils sont avocats, enquêteurs, proches de victimes, de suspects ou de coupables. Nous les avons choisis pour qu'ils se confient dans les voies du crime. Nous sommes Nathalie Renoux, Amandine Bégaud, Jacques Pradel et Jean-Alphonse Richard. Et dans chaque épisode, nous recueillerons la parole d'un témoin clé qui racontera une affaire de son point de vue. Bonjour et bienvenue dans Les Voies du Crime. Aujourd'hui, l'histoire de Régis Tiercelin, accusé d'avoir commandité le meurtre de son ex-petite amie, Sandrine Cordon, à La Ferté-sous-Jouarre, en banlieue parisienne. 17 janvier 2005, les pompiers découvrent une scène effroyable. Dans la cave de son immeuble, Sandrine Cordon, 23 ans, gît, face contre terre, ses deux yeux ont été crevés, elle a été littéralement massacrée de 60 coups de couteau. Comment expliquer un tel carnage alors qu'on ne connaît pas d'ennemi à cette jeune femme qui était enceinte? Très rapidement, l'enquête désigne un suspect, Régis Tiercelin, son ex-petite amie. La jeune femme l'a quitté quelques semaines plus tôt. Ivre de rage, l'homme de 41 ans aurait mal supporté la rupture. Il ne cachait pas qu'il voulait supprimer celle qui l'avait humiliée. D'ailleurs, en première instance, la cour d'assises de Seine-et-Marne conclut au scénario suivant. Régis Tiercelin aurait commandité le meurtre. Il aurait demandé à deux de ses amis, Sylvie Douet et Guillaume Gérard, de fournir l'arme du crime, puis de tuer la jeune femme. Régis Tiercelin est condamné à 18 ans de réclusion criminelle, mais il clame son innocence. Il dénonce un complot et jure qu'il n'a rien à voir avec ce meurtre. Alors qu'il fait appel immédiatement de ce verdict, comment ses avocats vont-ils travailler pour le libérer? Je suis Nathalie Renoux, je suis journaliste sur M6 et W9, et j'ai assisté à l'époque à ce procès. La voix du crime aujourd'hui, c'est l'avocat Joseph Cohen-Saban. C'est lui qui a repris le dossier de cette affaire en décembre 2009, lui qui a tenté de prouver que Régis Tiercelin ne pouvait pas être le cerveau de ce meurtre. Et voici comment.
Le jour où je reçois un appel téléphonique d'une jeune consoeur du barreau de Meaux que je connais bien, qui est une amie, je crois me souvenir que j'étais en train de dîner dans un restaurant. Et elle me dit qu'il fallait qu'elle me voie rapidement parce qu'elle était préoccupée par un dossier sur lequel elle voulait me consulter. Et elle me raconte une histoire qui, dans un premier temps, me paraît assez, on va dire, surprenante. Elle me dit « un innocent a été injustement condamné ». Nous savons tous que les prisons sont pleines d'innocents. Elle me dit que lui, c'est un vrai innocent. Elle m'a raconté l'histoire. Mais ce qu'elle me raconte surtout, c'est que elle savait que l'audience, en première instance, avait été d'une violence terrible. Elle ne se sentait pas de taille à affronter seule l'appel. Elle me confie une clé USB contenant donc le dossier et elle me demande de le regarder. Non pas de lui donner mon sentiment, d'ailleurs elle ne me le demande pas, elle me demande de défendre Régis Tiercelin. Je suis évidemment très curieux de savoir ce que contient ce dossier, le dossier de quelqu'un qui, après avoir été témoin pendant 2 ans, devient accusé et se prend 18 ans de réclusion criminelle. Ça, je suis très curieux de le voir.
Alors, justement, on va rentrer dans l'affaire. Sandrine Cordon, elle est tuée où ?
Sandrine Cordon rentrait chez elle, avec une petit scooter, une mobylette, que sais-je, et cet engin, elle le garait dans une cave. Donc, elle se dirige vers la cave, elle gare son scooter ou sa mobylette, et c'est là qu'elle va être attaquée et agressée d'une manière, encore une fois, extrêmement violente par quelqu'un qui ne la connaît pas, qui n'a jamais eu affaire à elle. L'auteur des faits, Guillaume Gérard, il est inconnu. Et il ne connaît pas Sandrine Cordon. Il va se précipiter sur elle, la larder, mais dans une, un déchaînement de violence inexplicable venant de la part de quelqu'un qui n'a pas de mobile. Quand on lui demande au début du dossier pourquoi il l'a fait, il explique qu'il l'a fait pour être agréable, pour faire plaisir à Sylvie Douet, qui l'avait recueillie, qui s'était occupée de lui. Elle tenait en rôle à moitié de grande sœur, à moitié de mère d'adoption. Il n'était pas très inséré socialement, le garçon, il n'avait pas une vraie famille. Et il renvoie donc à elle, qu'on va aller évidemment interpeller. Et elle va assez spontanément admettre que c'est elle qui en a parlé avec lui.
Avec Guillaume Gérard.
Avec Guillaume Gérard. Mais qu'elle ne lui a rien demandé, qu'elle a dit du mal de cette jeune personne, mais c'est tout. Et que l'autre a pris des initiatives qu'on peut qualifier de fâcheuses, c'est le moins qu'on puisse dire. Tous ces gens-là se rencontrent dans le cadre d'un programme d'aide à la réinsertion professionnelle en Seine-et-Marne, à Ponto Combo, me semble-t-il, ou quelque chose comme ça. Pendant des mois et des mois, Régis Tiercelin est un témoin. Il est l'ex-petit ami. Il en était, je crois, toujours d'ailleurs, fou amoureux. Elle avait eu une relation très éphémère avec lui. Il avait sombré dans une espèce de désespoir alcoolisé et bruyant, puisqu'il parcourait son petit village en hurlant des menaces de mort. On va s'apercevoir très rapidement d'ailleurs, parce qu'il va y avoir des analyses ADN, que Sandrine Cordon, qui était enceinte, ne l'était pas de lui. Il est dans le collimateur, puisque tout le monde sait qu'il a proféré différentes menaces, mais il est dans le collimateur policier et pas du tout dans le collimateur judiciaire. Et d'ailleurs, il n'assiste même pas à la reconstitution. Et ce seront les déclarations fluctuantes et évolutives des deux principaux accusés, c'est-à-dire Sylvie Douai et Guillaume, qui vont progressivement le faire rentrer dans l'affaire. Ils font monter son rôle jusqu'à l'envoi par Guillaume d'un cahier, d'une centaine de feuillets manuscrits, dont la lecture fait par instant un peu froid dans le dos à la vérité, parce qu'il relate tout de A à Z, mais il relate ça à sa sauce, et c'est là qu'il fait rentrer vraiment Régis Tiercelin dans l'affaire. Sylvie Douai, informée, ça c'est la règle du jeu par son avocat, du contenu de ce cahier, va s'aligner sur le cahier, de sorte que quelque temps avant la clôture de l'information, une juge d'instruction, je crois qu'elle était la troisième de ce dossier, va prendre la décision de mettre en examen Régis Tiercelin, dira-t-elle par la suite, pour que toute la cour d'assises puisse avoir une appréciation globale du dossier.
De quoi est accusé Régis Tiercelin ?
Régis Tiercelin est accusé d'avoir organisé, commandité quelque part, l'assassinat de Sandrine Cordon. Le cahier qui a été écrit par Guillaume Gérard, c'est un acte d'accusation en réalité contre Régis Tiercelin. Tout l'objectif de ce cahier est de dire que lui, somme toute, il n'est qu'un instrument avec Sylvie Douai, entre les mains d'un personnage qui est en retrait et que l'on ne voit pas, qui est Régis Tiercelin. Il va donc raconter les conditions dans lesquelles Régis les a convoqués devant son lit d'hôpital, puisqu'à le jour des faits, Régis est hospitalisé. Il va raconter que Régis les a conviés à l'hôpital, qu'ils lui ont rendu visite et qu'il leur a ordonné d'aller assassiner Sandrine. Je ne suis pas un très grand fan des visites en prison. Ça fait des décennies que je suis avocat et j'en ai assez d'aller en prison. Mais là, par rapport à ce dossier, d'évidence, je devais aller voir le bonhomme. Qui allais-je trouver ? C'est un garçon qui a des problèmes, des difficultés, sinon il ne serait pas dans cet organisme de réinsertion professionnelle. Il a un frère qui est d'entrepreneur, qui est remarquable, type d'une intelligence, d'une rapidité extraordinaire, une mère qui est une femme de caractère, une forte personnalité. Et lui, je vais le voir, et je découvre un petit bonhomme tout décharné, maigre comme un coucou, qui comprend encore pas bien ce qui lui arrive. Quand je le vois, il est en prison depuis 3 ou 4 mois. L'échange, enfin si on peut appeler ça un échange, c'était plutôt un monologue de ma part, qu'il ponctuait d'un petit sanglot par-ci, d'un haussement d'épaule par-là, et c'est très pauvre. L'échange est très pauvre, si ce n'est qu'évidemment de manière récurrente, il me dit « je l'aimais, je ne voulais pas lui faire de mal ». Et quand je lui objecte quand même qu'il l'avait menacé de mort à maintes reprises, il a une réponse qui n'est pas idiote, il me dit « à elle, je ne l'ai jamais dit, je hurlais ça dans la rue ». Mais c'était des conneries, d'ailleurs je ne l'ai pas tué, et si je veux tuer les gens, je les tue moi-même, je n'envoie pas des gens le faire à ma place. Il est dans un état de fatalisme et de résignation qui, de la part d'un innocent, peut surprendre. Mais comme ça, à première vue, on attend toujours d'un innocent qu'il hurle son innocence. Et le plus souvent, les vrais innocents, il y en a quelques-uns, heureusement, pour nous, les vrais innocents croient que leur innocence se suffit à elle-même. Donc, ne voient pas l'intérêt de se défendre puisqu'ils sont innocents. Et moi, il faut savoir, Régis ne m'a pas du tout aidé à le défendre. Heureusement qu'il y avait son frère pour me motiver, sa nièce, sa mère, et eux étaient très présents à mes côtés.
Vous arrivez au procès, vous dites que c'est là que tout va se jouer. Déjà, quelle est l'ambiance ? Ça se passe à Évry. Quelle est l'ambiance de ce procès en assise, en appel ?
Il fait un froid absolu. Nous sommes à l'approche de Noël et le premier jour du procès, la neige se met à tomber, mais se met à tomber de sorte que je ne savais même pas si j'arriverais jusqu'à là-bas, j'étais en voiture, je suis arrivé en crabe. Hein. On croyait que ça allait s'arrêter, et ça ne s'arrête pas du tout, et ça va tomber, de telle sorte qu'on est tous bloqués dans Évry. On va à pied au milieu de la neige jusqu'à un hôtel où on va improviser nos hébergements respectifs, les avocats, enfin ceux qui n'habitent pas Évry, et même la cour d'assises, les jurés, le président, tout le monde va habiter dans un hôtel qui a été, pas réquisitionné, mais enfin réservé dans l'urgence. Et ça va conférer à ce procès une atmosphère assez particulière. C'est-à-dire que tout ça est confiné avec la neige autour, tous entre nous tout le temps. Et avec les tensions qui peuvent exister sur le banc de la défense. J'en ai vu des procès d'assises avec quelques tensions, mais à ce degré, jamais.
La particularité de ce procès, c'est donc que vous, en tant qu'avocat de Régis Tercelin, vous faites face aux parties civiles, mais aussi à vos confrères de la défense, mais de la défense de Sylvie Douet et de Guillaume Gérard. Tout le monde est contre vous.
Habituellement, les cartes sont bien distribuées. Il y a la défense, en face il y a l'avocat général, et en face il y a la partie civile. Là, j'avais la sensation, dès le premier jour, sans être spécialement paranoïaque, que tout le monde était contre moi. Les parties civiles, il y avait, je crois, 4 ou 5 avocats qui représentaient donc les familles, la famille, les frères, les sœurs, tout le monde. Il y avait 4 ou 5. Puis un avocat général, un bonhomme extraordinaire que je redoutais beaucoup parce que j'étais moi convaincu qu'il allait être contre moi. Le président Vacogne, un président lumineux, type très bien, dont c'était le dernier dossier d'assises. Il allait finir les assises avec cette affaire sur les bancs de la défense. Sur leur banc à eux, les deux avocats de Sylvie Douet et de Guillaume, qui avaient décidé que Régis serait condamné encore plus sévèrement qu'en première instance. Et c'est avec eux, vis-à-vis d'eux, que le combat a été le plus dur. Qu'est-ce que je vais faire d'emblée ? Je vais me positionner géographiquement. C'est-à-dire qu'en général, le banc de la défense, on est aligné devant nos clients. Moi, je vais demander à l'huissier de la cour d'assises d'aller dans les dépendances me chercher une table. Je vais me positionner en perpendiculaire de des autres avocats face à la cour d'assises. Eux, ils sont sur la gauche, ils sont côte à côte, c'est leur problème. Moi, je suis seul avec la petite jeune fille, la petite consoeur qui m'avait invité. On est assis tous les deux et on se met au centre en réalité. Parce que la géographie d'audience, c'est une symbolique à laquelle je tiens beaucoup. Je ne veux pas être assimilé visuellement à la défense des autres. Je ne veux pas, évidemment, être avec les parties civiles qui sont mes ennemis naturels, si je puis dire. Mon vrai problème a été, pendant toute cette audience, a été de me battre contre les avocats des deux autres accusés.
L'expert psychiatre, comment se présente-t-il et que vient-il dire à la barre ?
Le professeur Mahé est d'abord, pour nous, avocat d'assises, pénaliste, chevronné, dit-on, est quand même un personnage très important. Dans toutes les cours d'assises où il vient témoigner, il y a toutes sortes d'experts, bien sûr. Lui, il fait partie de ceux qu'on aime avoir. Parce qu'il va au fond des choses, il ne nous fait pas des expertises copier-coller. C'est-à-dire, il va dire, nous avons ce groupe, Guillaume, Sandrine, Régis et Sylvie. Sandrine, c'est la jolie fille un peu cervelée qui séduit. Tout le contraire de Sylvie, qui essaie d'intéresser tout le monde et qui a un fort caractère, même si elle n'est pas d'une intelligence prodigieuse. On a le grand dadé, Guillaume, qui est un peu un chewing-gum, lui. Lui, il va où le vent le pose. Et on a Régis, qui est un petit rageux, haineux à l'époque. Et ça, c'est comme ça que le groupe se présente à lui. Mais après, il va regarder au-delà de ça, les interactions. Et il va nous donner une analyse qui a, pour moi, retourné le procès. Et c'était mieux que toutes les plaidoiries du monde, son analyse. C'est-à-dire qu'il va nous dire que Sylvie est en réalité l'épouse imaginaire de Régis. Il n'y a jamais rien eu de sexuel entre eux, mais elle a reporté tout ce qu'elle pouvait donner d'amour et d'affection à Régis. Pourquoi ? Impossible à savoir. Elle ne se livre pas là-dessus. Elle banalise. On a le grand dadé Guillaume, qui lui a une dévotion pour Sylvie parce que elle l'accueille chez elle, alors qu'il se fait virer de chez lui. Elle le nourrit. Donc c'est quelque part sa maman imaginaire, ou sa grande sœur imaginaire. Et on a Régis, il n'a rien d'imaginaire. Régis, il est juste blessé d'avoir été largué par Sandrine. Et dans ce groupe, on s'aperçoit que le moteur, c'est Sylvie. Que chacun va se comporter par rapport à Sylvie. Régis va téléphoner à Sylvie. À chaque fois qu'il est mal, il appelle Sylvie. Et il s'épanche. Et il va lui transmettre toute sa frustration et toute sa haine. Et la haine de Régis qui se serait arrêtée 3 semaines plus tard, elle va l'emmagasiner et elle va adopter pour elle la haine que Régis avait pour Sandrine. On va se rendre compte que Sylvie Douai s'était beaucoup impliquée dans la relation entre Sandrine et Régis, à telle enseigne qu'on va voir apparaître sur l'étude téléphonique un message menaçant de Sylvie à Sandrine, lui indiquant « Si jamais je m'aperçois que l'enfant est de Régis, je te fais la peau. » Cet élément va éclairer Mahé, le docteur Mahé, pour apprécier l'interaction entre Sandrine et Sylvie, parce que sinon Sylvie, lorsqu'elle parle, elle dit « Sandrine, elle s'en fiche complètement. » Elle n'a jamais admis que Sandrine était pour elle une rivale en quoi que ce soit. Elle ne le dit pas. Il va ressortir du témoignage du docteur Mahé plusieurs choses. La première, c'est que ce groupe est dominé par Sylvie. Ça, c'est clair, ça ressort d'une manière éclatante. Il va en ressortir également que Régis est un personnage phallo, qui n'a pas une forte personnalité, qui est plutôt un suiveur qu'un organisateur. Donc, Mahé va dire, non, je n'imagine pas un Régis. Il n'a pas le cerveau pour, il n'a pas les épaules pour, il n'a pas le mode de fonctionnement pour ça. L'avocat général, qui avait suivi les débats avec une attention et une présence réellement très très prégnante, va se lever, prendre des réquisitions d'une vraie violence, très sévère à l'encontre de Sylvie Douai et de Guillaume, et va s'arrêter, va marquer un temps, va dire que de l'instant où il considère que les éléments à décharge sont équilibrés avec les éléments à charge, il y a un énorme doute, que dans son esprit, ce doute doit s'imposer au bénéfice de l'accusé, et que dans son fort intérieur, dans sa subjectivité d'homme, il pense que Régis est innocent. Il pense que Régis a été injustement condamné et il demande son acquittement. Ça, c'est un coup de théâtre. Là, il faut être diabolique d'habileté. Ne pas trop en faire, ne pas en faire trop peu, ne pas croire que c'est gagné. La responsabilité est encore plus lourde, c'est-à-dire que si, malgré ces réquisitions, et à cause de cet instant, à cause de ma plaidoirie, il est condamné, je rase les murs pendant les 40 ans qui suivent, donc il faut attraper les jurés. Ce que j'ai fait, j'ai essayé de leur expliquer, de leur raconter, d'abord, ce qu'était 18 ans. J'ai repris l'actualité d'il y a 18 ans. J'avais leurs âges, puisque j'ai leur date de naissance. Et j'aurais dit, voilà tout ce qui s'est passé pendant ces 18 ans. Peut-être en plus, vous avez eu des enfants, etc. Eh bien, À compter d'aujourd'hui, si vous le condamnez, je vous demande tous les matins de vous regarder dans un miroir en vous disant, à cause de moi, un innocent est en prison. Parce que si vous le condamnez, vous vous apercevrez tôt ou tard qu'il était innocent. En gros, c'est ça le discours, c'est de leur mettre une pression d'enfer, quoi. C'est de mettre une pression d'enfer aux jurés en rappelant que le serment qu'ils ont prêté est de dire que le doute profite à l'accusé. J'ai attendu, il faisait nuit, il faisait froid, c'était tendu, la salle des pas perdus de la cour d'assises fourmillait de monde, et la tension montait au fil des heures. Pourquoi ça dure ? Ça dure parce qu'ils débattent de ma culpabilité ou pas, ou parce qu'ils évaluent la peine des deux autres ? Et on nous appelle pour nous dire ça et c'est bon. On rentre dans la salle d'audience, je suis tendu comme il n'est pas permis de l'être, on l'est tous, et la cour arrive, et va commencer par prononcer les peines des deux autres. C'est-à-dire, aux questions sur la culpabilité de Sylvie Doué, il a été répondu oui. Aux questions sur la culpabilité de Guillaume Gérard, il a été répondu oui également. Et là, il donne les peines des deux. Mais il n'a toujours pas parlé de Régis. Et là, je sais que je suis acquitté. Et j'attends à partir de là, détendu, qu'il dise « il a été répondu non pour Régis Tiercelin ». Le seul contact que j'ai eu avec lui après l'indemnité, il me dit « j'aurais préféré ne pas avoir un sou et avoir le droit d'assister à son enterrement ». Voilà, c'est la seule chose que Régis me dira, puis il va disparaître. Je le verrai plus. J'ai su par sa maman qu'il s'était encore un peu plus renfermé et qu'il vivait seul entre son journal, sa tablette, sa télé. Et puis voilà, sa vie s'est déroulée comme elle avait été jusqu'alors. Puis la maman m'avait envoyé des vœux, puisque le jour de l'an était tout près, puisque nous étions à Noël, et j'avais reçu quelques jours après, courant janvier, une carte que j'ai gardée des années, que j'ai perdue, que j'ai retrouvée. Je tombe dessus de temps en temps. C'était fraternel. C'était très fraternel. Elle avait jamais eu de frère et quelque part, elle me demandait d'accepter d'être le sien.
Vous venez d'écouter le premier épisode des Voix du crime consacré à l'affaire Régis Tiercelin grâce au témoignage de l'avocat Joseph Cohen-Saban. Vous pouvez retrouver cet épisode ainsi que tous les podcasts RTL Originals sur notre site rtl.fr et c'est Jean-Alphonse Richard qui vous accompagnera dans le prochain épisode des Voix du crime. Il y sera question de l'affaire Omar Radad. La voix du crime qui nous racontera ce fait divers est elle aussi un personnage clé de l'affaire. À bientôt.